Au nom de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue. Je suis Christine Bouchard, directrice de la programmation culturelle. Nous avons le plaisir ce soir d'accueillir M. Fernand Harvey, professeur attaché à la chaire Fernand Dumont sur la culture de l'INRS, urbanisation, et M. Yvan Lamonde, professeur d'histoire et de la littérature de l'Université McGill, tous deux distingués membres de l'Académie des lettres et des sciences du Canada et de la Société des 10. La conférence de ce soir s'inscrit dans le cadre d'un partenariat avec la Société des 10, fondée en 1935 et qui réunit 10 spécialistes de l'histoire du Québec et de l'Amérique française. Les travaux de ses membres sont publiés dans le cahier des 10 et font découvrir depuis 1936 divers aspects de la mémoire et du patrimoine de l'Amérique française. Intitulé « La rivalité politique et culturelle entre Montréal et Québec », le propos de nos conférenciers porte sur cette rivalité au cours des 19e et 20e siècles. Si Québec a cédé à Montréal son rôle de pôle culturel du 19e siècle, elle a su conserver et développer l'autonomie de sa vie culturelle, rivalité ou interfécondation. Cette conférence, qui s'inscrit naturellement dans l'ensemble des activités entourant le 400e anniversaire de la Ville de Québec, sera suivie le 9 janvier prochain d'une autre conférence mettant en honneur l'histoire de cette ville, intitulée « Québec en lutte pour son statut capital 1841-1865 ». Elle sera présentée par Gilles Galichand, bibliothèque et historien à l'Assemblée nationale du Québec et membre de la Société des 10. Sans plus tarder, je ne sais pas qui va commencer. Est-ce qu'on vivra une rivalité? Je cède la parole à nos invités de ce soir. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous informe que le débat sera suivi d'une période de questions animée par nos conférenciers de ce soir. Bonne soirée.
Alors, comme moi, je n'ai pas de rivalité, je vais laisser parler Fernand.
On reconnaît bien la politesse du Montréalais.
Voilà.
Je pense que je vais être plus à l'aise ici pour commencer. Alors, on a convenu d'avoir chacun un exposé de 20 minutes. Par la suite, il y aura échange et aussi question de la salle. Alors, on ne fera évidemment qu'effleurer un vaste sujet qui est sans fin. Dans ce temps qui nous est alloué. Ce que j'aimerais faire valoir ici ce soir, c'est que Québec et Montréal constituent en somme les deux pôles culturels fondamentaux de la société québécoise, en plus des autres régions. Ce sont, à mon sens, des marqueurs clés de l'identité canadienne-française d'abord et québécoise plus récemment. Et on l'a souligné souvent, il existe une espèce d'amour-haine entre les deux villes qui relève à la fois du folklore et, ou de la légende urbaine ou d'une saine compétition, comme vous voulez. Les stéréotypes sont bien connus. Les Montréalais vont dire, par exemple, que à Québec, on a la mentalité de village, que les fonctionnaires de la Grande Allée prendraient des décisions coupées de la réalité montréalaise, s'entend. Que c'est une ville chauvine où les stations de radio-poubelle fleurissent. Bref, c'est une belle ville, mais où on souhaiterait ne pas demeurer. Du côté de Québec, à l'égard de Montréal, on va souvent entendre que c'est une ville anonyme, plutôt malpropre, une ville centrée sur elle-même qui ne se préoccupe pas de Québec et des autres régions, particulièrement dans ses médias électroniques. Et écrit, on aura l'occasion d'y revenir, si vous voulez, plus tard. Ce n'est pas nouveau, la rivalité entre deux villes. Ceux qui ont des études classiques se souviennent de la rivalité entre Sparte et Athènes. Plus près de nous, on pourrait parler de la rivalité, sans doute, entre d'autres villes canadiennes, Calgary, Edmonton, Ottawa, Toronto, etc. Le soleil, dernièrement, faisait état d'une enquête qui avait été faite sur les occurrences de ces rivalités entre les deux villes. On disait, par exemple, que la rivalité est alimentée à 55 % par Québec et 36 % par Montréal, 9 % dans les autres régions. Et c'est la radio qui est la principale source de cette rivalité, avec 63 % de pourcentage. Les secteurs d'activité où on se plaint mutuellement, d'abord, il y a la culture. 70 % de la rivalité viendrait de Québec contre 21 % pour Montréal. Dans le cas du milieu des affaires, c'est le contraire. 63 % des critiques viennent de Montréal et 35 % de Québec. Y a-t-il là un signe? Dans la question politique, c'est la moitié des critiques qui viennent de Québec contre le tiers de Montréal. Il faut dire aussi que le mystère Québec, dont on parle souvent ces derniers temps, va sans doute alimenter et faire basculer la proportion, peut-être, du côté de Montréal. On pourrait comme ça parler du sport, où on est mécontent à Québec à 52 % contre 26 % du côté de Montréal, etc. Et il y a aussi le phénomène que la plus petite ville se sent toujours plus vulnérable par rapport à la plus grande qui, elle, regarde ailleurs. Je pense que c'est connu que Montréal aime bien se comparer à Toronto ou à New York et non pas à Québec. De la même façon, je ne sais pas, Rimouski va se plaindre de Québec et Rivière-du-Loup de Rimouski. Alors, vous voyez, il y a comme des poupées russes là-dedans. Mais si on revient à des propos plus sérieux, je pense qu'on a souvent tendance à considérer l'histoire du Québec de façon globale et qu'une analyse à partir des villes, en particulier les deux qui nous occupent, serait pertinente, me semble-t-il, pour mieux éclairer la complexité de la société québécoise qui n'est pas, comme on le sait, homogène. Ce qui m'intéresse au-delà des rivalités folkloriques, anecdotiques, c'est au fond la dynamique entre les deux villes. Qu'est-ce qui fait que Québec est Québec et que Montréal est Montréal? Et comment ces deux villes-là, comme on le disait dans l'avant-propos tout à l'heure de Mme Dazé, comment ces deux villes-là peuvent s'interféconder dans le contexte québécois? Évidemment, ici, je ne pourrais pas ce soir couvrir tous les aspects. Je me contenterai de quelques éléments. Je vais surtout, personnellement, centrer mes réflexions sur le 19e siècle, mais on pourra aussi déborder sur le 20e. En 1800, Québec, au point de vue démographique, compte une dizaine de milliers d'habitants. Montréal, à peu près la même chose. En 1851, là, ça bascule, c'est Montréal qui l'emporte avec 58 000 habitants et Québec n'en a que 46 000. Et par la suite, l'écart entre les deux villes va grandir considérablement. À la fin du siècle, en 1901, Montréal compte 268 000 habitants et Québec 69 000. Donc, l'écart se poursuit par la suite. Maintenant, au niveau économique, ce qui est important de comprendre pour le débat qui va suivre, c'est que Québec, entre 1800 et 1870, plus ou moins, 1815 à peu près, va connaître une grande ère de prospérité qui est liée aux activités marchandes, le commerce du bois, l'exportation du bois équarri vers l'Angleterre part de Québec en provenance des régions comme l'Outaouais, la Mauricie. On sait, par exemple, qu'en 1860, il y avait 6 000 débardeurs à Québec pour une ville qui comptait 60 000 habitants. Donc, une grande activité de ce côté-là, importance aussi de la bourgeoisie anglo-écossaise de Québec. Et par la suite, à partir de 1870, Québec va connaître un long déclin économique qui va avoir de profondes répercussions sur la composition de sa population. Beaucoup de gens vont partir vers Montréal ou ailleurs. Des gens de la campagne vont venir s'installer à Québec. Et divers facteurs expliquent ça. J'en ai parlé, le bois équarri qui cesse d'être une activité principale, l'immigration de la bourgeoisie d'affaires anglophone vers Montréal, l'industrialisation qui va prendre la place à Québec va être modeste, va se contenter de parler, de se développer du côté de l'industrie de la chaussure, du vêtement et autres industries légères. Alors que Montréal, évidemment, connaît une expansion considérable. Ça, c'est un petit contexte économique qui permet de comprendre bien des choses. Les différences politiques et idéologiques, là, on pourrait s'étendre très longuement. Des importantes différences de ce côté-là remontent au milieu du 19e siècle. Mais on pourrait évidemment remonter jusqu'à la Fondation de Montréal, alors que Maisonneuve refusait l'offre du gouverneur Montmagny de s'installer dans les environs et préférait aller fonder Ville-Marie. Il y a un naturaliste suédois, Per Kalm, qui visite la colonie au milieu du 17e siècle. Il va faire une comparaison amusante entre les femmes de Montréal et de Québec. Alors, je n'ai pas pu résister à l'idée de vous en citer quelques extraits. Alors, les femmes de Québec ressemblent à leur façon d'être aux femmes de France, mais les femmes mariées vivent trop librement. Il paraît qu'on les présente aux jeunes Français de la Marine royale, stationnés à Québec, durant un mois et davantage. Ces messieurs n'ont d'autre occupation que de rendre visite à ces dames avant de regagner la France. Toute la journée s'écoule de la sorte sans que la jeune fille s'adonne au plus léger travail. Elle reste assise et bavarde avec les jeunes gens. Même à l'intérieur des maisons, les jeunes filles s'habillent chaque jour de magnifique façon, comme si elles étaient invitées à dîner chez le gouverneur général. Elles portent sur elles toute leur fortune et même parfois davantage, rien que pour être splendides. Coquetterie des femmes de Québec. Celle de Montréal maintenant. Les femmes de Montréal. Une grande partie des Français venus s'installer en Nouvelle-France accusent les femmes de Montréal de manquer, dans une grande mesure, de la bonne éducation et de la politesse des Françaises d'origine. Les personnes du beau sexe à Montréal semblent poussées par un certain orgueil comme contaminé par l'esprit imaginatif des sauvages d'Amérique. On leur trouve une sorte de fierté sauvage. Le matin, elles se lèvent avant le diable en personne. Le soir, les femmes et les jeunes filles et les garçons se promènent dans les rues, bras dessous, en plaisantant et en badinant entre eux, avec une gaieté folle. En général, ces dames sont plus jolies que celles de Québec. De plus, elles les surpassent dans le domaine de la chasteté. Voilà, alors c'est des perceptions amusantes, mais qui montrent que déjà, à cette époque-là, on peut voir des différences entre les deux villes. Dans un domaine d'ordre militaire et politique, il y a aussi des différences qui commencent à poindre au 19e siècle. Bon, je rappellerai simplement qu'au moment de la conquête, le gouvernement de la Nouvelle-France va déménager à Montréal, qui va être la capitale pendant quelques mois avant la reddition de Montréal en 1760. Bon, le Conseil souverain va siéger à Montréal. Lors de l'invasion américaine de 1775, on sait que Montréal va être envahi par les Américains. Et va se défendre, ne va pas se défendre, en fait, va accepter d'assez bonne grâce l'envahisseur avec des sympathies actives à l'intérieur même de la ville. Et le gouverneur Carleton, lui, va se dépêcher de regagner Québec avec ses munitions pour défendre la ville, sachant que si Québec tombe, c'est toute l'Angleterre qui perd sa colonie. Et évidemment, on sait la suite. Les Américains ont été battus devant Québec à l'hiver de 1775. Mais ce qu'on va retenir de ça, et c'est ça qui est important, c'est que les gens de Québec vont s'enorgueillir du fait qu'ils ont résisté devant les Bostonnais, comme on les appelait à l'époque. Et on va évoquer ce fait d'armes, si on veut, comme un puissant symbole de la loyauté des Canadiens et va consolider l'image de Québec comme une capitale forteresse. Alors ça va revenir plus tard, tout au cours du 19e siècle, dans les débats, notamment pour le statut de capitale. Alors là, le gouverneur Carleton va aussi remercier, évidemment, les Québécois de leur contribution et va reprocher aux Montréalais leur résistance plutôt molle. On pourrait aussi parler, dans un autre exemple, des rébellions de 1837-38, où, là, il y a une distance idéologique, je pense, qui sépare les deux villes. Les députés de la région de Québec vont être beaucoup plus conciliants par rapport au pouvoir et pensent qu'on peut négocier. Et Étienne Parent, par exemple, va prendre ses distances par rapport à Papineau au moment où il se radicalise. Évidemment, c'était peut-être difficile de prôner des idées républicaines à Québec, alors que l'armée était là et que les canons étaient pas loin non plus. Peut-être que la rivalité la plus importante entre les deux villes au 19e siècle, c'est la lutte pour le statut de capitale. Gilles Galichan, qui va nous suivre dans une prochaine conférence, va en parler beaucoup plus longuement. Mais j'aimerais rappeler ici que de 1740 à 1867, la capitale du Canada uni va se promener entre Québec, Kingston, Toronto, Montréal et retour à Québec dans une espèce de ballet où on va, comme on ne peut pas s'entendre sur le siège de la capitale, on va dire qu'on va avoir une capitale, l'alternance entre les villes aux 4 ans. Évidemment, ça ne fonctionnera pas très bien, mais Québec va être capitale au moins 2 fois durant cette période, notamment à la fin des années 50 jusqu'à la Confédération de 1867. Montréal va obtenir, comme on sait, le rôle de capitale en 1844 et va terminer abruptement son statut au moment où un groupe d'extrémistes anglophones va brûler le Parlement, et de sorte que le Parlement, la capitale, retourne à Québec. Évidemment, il y a là-dedans, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais toutes les oppositions des orangistes et des gens de l'Ontario, de Toronto, qui ne veulent pas que la capitale retourne à Québec. Les Montréalais, de leur côté, essaient de tirer leur épingle du jeu, mais ils sont un peu brûlés, on peut dire, sans jeu de mots, pour un certain temps. Ce qui est important, et ça va avoir un impact au niveau culturel, cette idée de siège de la capitale, c'est qu'avec le rôle de capitale, ce sont les fonctionnaires qui s'installent, les institutions, les services, et aussi toute une vie culturelle qui se développe à Québec jusqu'à la Confédération, donc sous l'Union. Québec va connaître un âge d'or au niveau de la culture, et si j'ai quelques minutes, je vais pouvoir vous en parler à l'instant. Évidemment, Québec va lutter pour obtenir le siège de la capitale au moment de la Confédération, va faire des représentations à Londres, va faire savoir que pour des arguments historiques, géographiques, militaires, politiques, économiques, c'est l'endroit où il faut installer le gouvernement de la Confédération. Mais Macdonald va suggérer à la reine Victoria de choisir Ottawa. Et il y aura encore une fois un déménagement de tous les fonctionnaires à Ottawa, et Québec va se retrouver une petite ville de province avec un prix de consolation donné par Sir Georges-Étienne Cartier, celui de capitale de la province de Québec, ce qu'on appelait à l'époque le gouvernement local. Ça vous donne un peu l'idée du statut. Et il faut dire que là, la rivalité avec Montréal va continuer, dans le sens qu'il y a 2 députés montréalais, 2 députés anglo-montréalais, Ogilvie et Carter, qui vont vouloir présenter une motion en 1869 pour déménager la capitale à Montréal en disant que nous, on va tout payer, les constructions, etc. Et Cartier, qui avait donné sa parole que le gouvernement resterait à Québec, les a tassés, si on peut dire, et la motion n'a pas été présentée en Chambre, de sorte que la menace a été écartée pour plusieurs décennies. En fait, les premiers ministres vont habiter Québec, vont graviter autour de Québec tout au cours du 20e siècle. On pense à Gouin, Taschereau, Duplessis, Lesage. Et c'est à partir de Robert Bourassa qu'on va revenir vers une tendance montréalaise où beaucoup de réunions, de sièges sociaux de l'appareil gouvernemental va glisser vers Montréal et va faire l'objet de plaintes, de rivalités avec les gens de Québec. Il me reste juste quelques minutes, mais on pourra peut-être y revenir au niveau de la discussion. J'ai préparé pour le cadre des histoires régionales publiées par l'INRS les chapitres sur la vie culturelle à Québec dans le cadre de l'histoire de Québec qui va être lancé au printemps prochain. Et j'ai pu voir comment a évolué justement la vie culturelle à Québec. Et ce qui m'a frappé, c'est que c'est l'antériorité de la vie culturelle de Québec par rapport à celle de Montréal pour des raisons historiques. je sens qu'on aura peut-être une discussion là-dessus. Mais le fait que, par exemple, la vie théâtrale va se développer beaucoup à partir de Québec à cause du théâtre de garnison, entre autres. La musique également, la musique militaire qui arrive avec les régiments anglais et aussi avec les régiments allemands, va faire en sorte que des Allemands qui dirigent ces musiques-là vont devenir des professeurs de musique par la suite dans la vie civile et vont développer la vie musicale à Québec. Il faut se rappeler, par exemple, que l'Orchestre symphonique de Québec a été créé en 1903, donc c'est la plus vieille au Canada. Au niveau du théâtre, on construit l'Académie de musique de Québec en 1854, qui est la plus belle salle du pays à l'époque. Par exemple, au niveau des représentations théâtrales, si on regarde rapidement quelques chiffres, entre 1804 et 1858, il y a 183 représentations de théâtre qui ont été recensées en français. Québec en a 85, Montréal 98. Donc, vous voyez qu'encore, durant la première moitié du 19e siècle, les deux villes sont assez à armes égales au niveau de la vie culturelle. C'est par la suite que ça va basculer. Que dire d'autre si rapidement? Les premiers peintres québécois sont pour la plupart de Québec, François Baillarger, Roy Audy, Joseph Légaré, Antoine Plamondon, etc. L'émergence de la littérature va être à Québec au départ, qu'on se rappelle de Garneau, qui va écrire l'histoire du Canada, Jane Austen, qui publie le répertoire national, également l'École patriotique de Québec, qui est fondée autour des années 1860 et dont l'abbé Caserin va vouloir être le penseur, si on veut, en voulant développer justement une littérature canadienne. Du côté des bibliothèques, évidemment, la bibliothèque de la législature a joué un très grand rôle. Je n'ai pas le temps ici de parler de tous les déboires qui ont existé autour de cette bibliothèque-là. Je parlerai peut-être un mot de la bibliothèque de l'Institut canadien de Québec, qui va être fondée en 1848, soit, je pense, c'est 4 ans après celle de Montréal. De ce côté-là, ce n'est pas une rivalité parce que les jeunes de Québec vont dire « voilà un modèle qu'il faudrait imiter ». Et on va créer le même genre de structure à Québec, sauf qu'on ne connaîtra pas à Québec les conflits idéologiques autour de la condamnation de l'Institut canadien par Mgr Bourget et contre les libéraux. À Québec, les idéologies sont beaucoup plus conservatrices et les nuances qui s'imposent à Québec, ce n'est pas entre le libéralisme et l'ultramontanisme, mais entre des variétés de conservatisme, si on peut dire. Québec aussi, au niveau de l'imprimerie, va être la principale ville du Canada jusqu'aux années au moins 1820. 75% des imprimés sont produits dans la colonie jusqu'en 1820 viennent de Québec, qui est un quart de Montréal. Par exemple, dans les importations de livres, les 3/5 arrive à Québec et 2/5 à Montréal dans les années 1820. Et on pourrait comme ça multiplier les exemples. Mais je pense que je vais m'arrêter là pour le moment. On pourrait sans doute aussi trouver des exemples dans l'histoire religieuse, les rivalités entre les évêques de Montréal et de Québec à différentes périodes, la querelle de l'Université Laval à Montréal, des comportements électoraux anciens et actuels. Mais au-delà de ces oppositions, je pense que, je reviens à mon idée de départ, il me semble qu'il faudrait développer une approche comparée entre les deux villes pour mieux comprendre leur dynamique interne et aussi leur contribution à l'évolution de la société québécoise. Pour la période plus récente, si on a le temps de l'aborder, évidemment, il y aurait beaucoup de choses à dire sur les années actuelles, notamment au niveau de la culture, où c'est au niveau de Québec qu'il y a beaucoup de récriminations par rapport à Montréal, au niveau de la montréalisation des médias, comme on l'appelle, et le fait que, bon, on peut plus difficilement à Québec développer, se faire connaître dans la vie culturelle malgré tout son dynamisme. Alors, je m'arrête ici et on verra pour la suite.
Bon, je vais essayer d'être la voix de Montréal, c'est-à-dire une voix pondérée. Deux propos, essentiellement. Avant de préciser ces deux propos, je pense qu'il y a une rivalité Québec-Montréal en profondeur, à certains plans, surtout au plan politique. Mais d'autre part, je pense qu'il y a une rivalité de surface qui est attisée par les médias en général. Pour moi, les médias, c'est tout autant les Nordiques de Québec que les Canadiens de Montréal. Hein, il y a eu à un moment trop bref pour Québec, sans doute, où les deux équipes ont littéralement soufflé sur les braises qui existaient sous la cendre, et puis le débat récent sur le type de radio qu'on a connu à Québec et qu'on n'imaginait pas à Montréal, et qu'on n'a pas eu à Montréal non plus, cela a relancé ce qu'on appelle à l'occasion la rivalité Québec-Montréal. Donc, j'aimerais qu'on distingue entre une rivalité qui me semble structurelle, pour différentes raisons que je vais expliquer, et une rivalité attisée par un certain nombre d'événements ou de prétextes plus ou moins médiatiques. Deux propos. Le premier, je voudrais insister sur l'origine et l'évolution de la rivalité politique entre Québec et Montréal. Ça me semble structurel. Et c'est pas nécessairement une rivalité où on se prend aux cheveux, mais c'est une rivalité d'autant plus forte qu'elle a été durable et qu'elle est demeurée dans les mêmes axes. Et je vais donner des exemples de cela. Mon deuxième propos concerne ce que j'appelle le dimorphisme du Québec, c'est-à-dire que nous sommes captifs d'une situation de polarisation entre Montréal et le restant du Québec. Et le restant du Québec inclut la ville de Québec ou la région de Québec. Alors, voilà mes deux propos. Je reviens au premier. La rivalité politique. Elle me semble documentée, observable, et elle date, je dirais, de la première décennie du 19e siècle, au moment où, en 1817, Louis-Joseph Papineau devient leader du Parti canadien, qui va devenir le Parti patriote en 1826. Jusqu'alors, la vie politique et parlementaire des Canadiens, comme on les appelait à l'époque, était identifiée à Québec, à la famille Panet, entre autres, Panet étant l'orateur de la Chambre d'Assemblée depuis 1792. Mais à partir de 1817, le Parti canadien devient de plus en plus le parti des gens de Montréal, hein, et à telle enseigne qu'on va voir les gens de Québec se dissocier de ce Parti canadien devenu le Parti patriote en 26. Ça va commencer par John Nielsen, par exemple, qui, sur un certain nombre de questions, à partir de 1832, va se séparer de Papineau. Et Parent, Fernand y a fait allusion tantôt, Étienne Parent, qui est le rédacteur du journal Le Canadien, qui est vraiment la voix de Québec, comparativement à Ludger Duvernay, qui est propriétaire-rédacteur de la Minerve à Montréal, qui est la voix du Parti patriote à Montréal. À partir de ce moment où Parent, qui va rester jusqu'à la fin de 1836 solidaire du Parti patriote, mais à partir du moment où il se désolidarise du Parti patriote et de Papineau, là, on voit la polarisation se cristalliser et on voit les orientations idéologiques et politiques de Québec et de Montréal s'éloigner progressivement l'une de l'autre. Posez-vous simplement la question que Fernand a évoquée, qu'en est-il des rébellions dans la région de Québec? Il n'y a pas véritablement de mouvement de rébellion dans la région de Québec. Il y a quelques individus, oui, mais la tendance forte qui gravite autour d'un certain nombre de députés de la ville de Québec, je dirais noyautée, dans un terme positif, là, noyautée par Parent, ces gens sont plutôt favorables à une approche de conciliation. Alors qu'à Montréal, et ce qui veut dire dans la région de Montréal, parce que dans la ville de Montréal comme telle, à cause de la garnison, il y a peu d'activité autour de 37. Il y en a entre 34 et 37, mais ça se passe surtout, comme vous le savez, au sud de Montréal et au nord de Montréal. Alors, là, je pense qu'il y a une rivalité politique et idéologique bien identifiée qui va se structurer et qui va continuer, à mon avis, jusqu'à nos jours, et c'est ce qui fait que pour moi, il n'y a pas de mystère à Québec. Je ne veux pas être indûment polémiste, mais une fois qu'on a dit, comme je le fais, que Québec est surtout un milieu conservateur au plan politique et idéologique, et j'espère que si vous pensez que je suis polémiste en disant ça, j'espère vous montrer que je ne le suis pas et que cela relève de l'analyse de l'histoire, disons, des idées politiques au Québec. Alors, une fois qu'on a dit ça, il n'en reste pas moins que, en ce qui me concerne, Papineau et Parent sont les deux versants d'une même montagne qu'on n'a pas réussi à annexer ni pour un ni pour l'autre. C'est comme si dans la psyché politique du Québec, Parent et Papineau n'étaient pas réconciliés, n'étaient pas réconciliables et qu'il y avait une ambivalence que nous n'avons pas été capables de lever dans l'histoire jusqu'à nouvel ordre. Bon. Je ne dis pas dans quel sens il faut la lever, mais c'est une autre question qui relève peut-être là plus de l'opinion du citoyen que de l'analyse de l'historien. Alors, le conservatisme de Québec, il se poursuit tout au long du 19e siècle. Fernand a évoqué tantôt, par exemple, comment l'Institut canadien de Québec avait rien à voir avec l'Institut canadien de Montréal du point de vue de l'orientation idéologique. L'Institut canadien de Montréal mène un combat pour les idées libérales, pour la séparation de l'Église et de l'État, pour une certaine mixité entre catholiques et protestants, entre francophones et anglophones. C'est que déjà, la dimension démographique de la ville de Québec et de Montréal commence à poser problème dans la mesure où, comme vous savez, les deux villes sont majoritairement anglophones entre 1835 et 1865. Faiblement majoritaire anglophone, mais majoritaire néanmoins. Mais Montréal va redevenir majoritairement francophone en 65. Alors, le conservatisme, il est incarné dans des institutions à Québec, que ce soit l'Institut canadien de Québec, par exemple, que ce soit au plan du conservatisme culturel. Hein, Fernand a eu la délicatesse et la sagesse de me faire lire les chapitres qu'il a écrits pour l'histoire de Québec dans la série de l'histoire des régions. Et c'est donc là que j'ai pris mon information. Le conservatisme vaut même au plan culturel et au plan littéraire. Hein. C'est dans la ville de Québec que Mgr Camille Roy, en 1904, plaide en faveur d'une littérature canadienne de langue française identifiée à une certaine forme de régionalisme, si vous voulez. Et pour moi, c'est là un autre signe du conservatisme culturel de Québec, alors qu'au même moment, à Montréal, il y a un autre mouvement littéraire qui est celui des exotiques, comme on les a appelés, regroupés autour d'une revue très éphémère, le NIGOG, en 1918, et donc qui représentent, eux, un combat pour une certaine modernité culturelle et littéraire. J'aimerais vous fournir une autre pierre dans ce guet du conservatisme de Québec, c'est cette chose assez qui demeure un peu surprenante pour moi. Au moment de la crise de 1929, qui est une crise économique, qui est une crise sociale, mais qui est aussi une crise politique et une crise spirituelle, nulle part plus qu'à Québec ne s'articule une orientation fasciste. Hein? Autour d'un journal, d'un hebdomadaire qui va s'appeler La Nation et qui est dirigé par, entre autres, Paul Bouchard, momentanément Jean-Louis Gagnon et quelques autres. Comprenez-moi bien, fascisme n'est pas un mot péché mortel, fascisme n'est pas terrible, c'est pas la fin du monde. Il y en a eu au Québec comme il y en a eu au Canada anglais, comme il y en a eu en Europe. Cela ne justifie pas qu'il ait donné un certain nombre de dérapages, mais ce n'est pas la grande culpabilité. Là, il faut en sortir. Mais à Québec, Paul Bouchard, dans La Nation, va structurer un mouvement indépendantiste qui va s'appuyer sur le fascisme d'inspiration italienne à la Mussolini, mais pas du tout d'inspiration allemande, nazie ou hitlérienne. Bon, qu'on se comprenne bien. Ce que je veux simplement faire comprendre, c'est que c'est pas la ville de Québec qui est fasciste, là. Hein? Il y a le soleil, il y a l'événement, il y a d'autres journaux, il y a l'Action catholique, bref, il n'y a pas là de généralisation, mais que ce soit à Québec, au moment de la crise des années 30, que le fascisme est trouvé dans une conjonction avec l'indépendantisme, est trouvé un lieu d'éclosion autour de Paul Bouchard, cela me semble intéressant. Et les exceptions sont intéressantes. Hein? L'exception, c'est Jean-Charles Harvey. Les demi-civilisés qui paraissent en 1934 et qui est une critique assez frontale de la bourgeoisie de la ville de Québec. Et vous connaissez l'histoire de Jean-Charles Harvey qui est obligé de quitter le Soleil où il est rédacteur en chef. On le nomme dans un premier temps au bureau de la statistique, pensant que les chiffres ne serait pas contaminé par les lettres, mais Monseigneur, je ne sais pas si c'est Villeneuve encore à ce moment-là, s'y oppose, et bref, Jean-Charles Harvey doit quitter Québec et s'en vient à Montréal, fonder un journal qui va s'appeler Le Jour. Alors, ce conservatisme, comprenez-le bien, qui n'est pas un jugement de valeur sur la ville de Québec. Ce serait vraiment faire de la polémique à la petite semaine que de vouloir épingler Québec et réduire Québec à ce conservatisme. Mais je pense que, globalement, ce courant de conservatisme est dominant à Québec pour un certain nombre de raisons que vous pourrez vous-même chercher à expliquer, si vous voulez. Et de ce point de vue, que l'on parle de Québec ou qu'on parle de la région immédiate de Québec, incluant, disons, la Beauce et l'Aubinière, par exemple, ben, cela explique un certain nombre de mouvements autour du crédit social ou autour de l'élection des députés de la DQ, par exemple. Bon. Alors, ça, c'est mon premier propos. Le conservatisme, qui me semble être une forme d'expression d'une rivalité qui existe entre Montréal et Québec, ou en tout cas, si ce n'est pas une rivalité toujours incandescente, c'est une rivalité qui est continue, qui est présente et qui dort bien sous les braises quand le feu n'est pas incandescent. Je passe à mon deuxième propos pour respecter votre temps d'antenne à vous aussi. C'est la question du dimorphisme dans l'évolution du Québec. Ce que j'entends par là, c'est cette chose très simple qu'on a commencé à épingler durant la dernière campagne électorale lorsqu'un certain nombre de personnes ont deviné que le montréalocentrisme des partis politiques, et en particulier du Parti québécois, hein, commençait à indisposer des membres du Parti québécois à l'extérieur de Montréal, en province, comme on dit, sans connotation péjorative. On commence à sentir, et Fernand avait raison de dire que l'histoire du Québec devrait être faite en fonction des grandes villes, mais devrait être faite aussi en fonction des régions. Et Fernand sait de quoi il parle, c'est lui qui est le maître d'œuvre depuis à peu près un quart de siècle de toutes ces histoires des régions qui sont parues à l'IQRC et à l'INRS. Donc, mais on se retrouve dans une situation où, moi je dirais qu'après 1850, Montréal, Québec décline au plan politique et au plan économique, hein. Il va y avoir une certaine renaissance politique avec la Confédération au moment où la ville redevient capitale, mais de la province. Mais au plan économique, Montréal a commencé à prendre une longueur d'avance. Moi, très clairement, après 1850, j'irais plus avant pour un certain nombre de secteurs. Mais et à partir de ce moment, la réalité contemporaine, hein, du fait que Montréal s'est urbanisé beaucoup plus rapidement, beaucoup plus fortement que n'importe quelle autre ville ou région du Québec, le fait qu'actuellement Montréal soit, parce que Montréal, c'est les trois plus grandes villes du Québec, hein, c'est Montréal, Laval et Longueuil. Si on prend le Grand Montréal, ben, le poids démographique de Montréal, d'une part, le poids économique de Montréal, le produit intérieur brut du Québec, vient à un peu plus de la moitié de la région de Montréal. Il y a donc un déséquilibre structurel dans l'histoire du Québec qui fait que la sensibilité au problème ne peut pas être la même. Quand je vais chez mon ami Gilles Galichand à l'île d'Orléans, je n'ai pas le réflexe de savoir si je vais m'adresser en anglais à quelqu'un, hein, à moins de tomber sur un touriste. Ce déséquilibre de la population, ce déséquilibre de l'activité économique pour l'ensemble du Québec fait donc que Montréal est confronté à des problèmes, entre autres la composition ethnique de Montréal qui a à peu près, enfin, peu à voir avec les autres villes du Québec, y compris la ville de Québec. Le problème linguistique qui se pose à Montréal ne se pose pas à Québec, n'est pas vécu à Québec, en tout cas. Et donc, je dirais que on a historiquement institutionnalisé la rivalité obligée, je dirais, entre Québec et Montréal à cause de ce déséquilibre qui s'est produit dans l'histoire au plan de la population à Montréal, au plan de l'économie et au plan des face-à-face avec les problèmes, avec des problèmes ou des défis qui ne sont pas ceux des habitants du Québec, je dirais, à 60 kilomètres à l'extérieur de Montréal. Alors, cela induit des perceptions. Hein? Pourquoi un Montréalais ne voudrait pas, remarquez mon conditionnel, pourquoi un Montréalais ne voudrait pas déménager à Montréal à moins d'une promotion dans la fonction publique? Déménager à Québec, oui. Oui. Vous analyserez mon lapsus comme vous voudrez. Il y a donc des sensibilités différentes et qui font, lorsque se pose un certain nombre de questions comme cette question de ce qu'on a appelé pour créer justement un émoi autour du phénomène de la radio, les radios poubelles, hein, déjà la terminologie induisait une polémique à ce sujet. Ce serait intéressant de voir comment les Montréalais peuvent expliquer le fait qu'on puisse avoir à Québec des types de tribunes radiophoniques qui ressembleraient à des perrons d'église ou à des places de marché, mais sur les ondes hertziennes. Est-ce que cela tient à l'homogénéité plus grande de la population de la ville de Québec, qui se retrouve nécessairement entre elles plus spontanément, plus naturellement, hein, et où les échanges vont plus facilement graviter autour d'un noyau qui est peu concurrencé, si je peux dire, par d'autres électrons libres. Bon, alors, je m'arrête là. Débattons à savoir si, effectivement, il y a une rivalité de surface puis une rivalité de profondeur. On peut ne pas être d'accord avec ça. Hein? Réfléchissons aussi à la rivalité politique, le conservatisme. Est-ce trop réducteur que de présenter Québec et la région de cette façon? Et sommes-nous condamnés à trouver des Montréalais qui se demandent bien comment Québec peut prétendre à être une capitale nationale alors que le gouvernement doit déplacer, dupliquer, dédoubler des partis de ministère à Montréal pour faire face à la réalité. Alors, voilà mon propos. Je ne sais pas si Fernand voudrait réagir à ça dans un premier temps, mais tout de suite après, la parole sera à vous.
Je vais réagir sur la question du conservatisme, parce que je pense que c'est une question fondamentale pour Québec. Il y a conservatisme et conservatisme. Je pense qu'il faut éviter de voir, et je pense que là-dessus, Yvan a été prudent, en disant que c'est pas nécessairement homogène. Effectivement, la ville de Québec n'a jamais été aussi homogène qu'on le prétend. D'abord, il y a toujours un clivage géographique que vous connaissez tous, la haute ville et la basse ville, et qui fait que les ouvriers et aussi la culture populaire s'est développée dès le 19e siècle et au 20e siècle dans la basse ville et la haute ville, que ce soit les quartiers, ce qu'on appelle la Grande Allée ou plus ou moins autour, les grandes rues, la rue des Braves et tout ça, était la bourgeoisie de Québec. Et si vous lisez certains romans qui traitent de Québec, vous avez ce clivage très évident. Évidemment, ça n'existe plus aujourd'hui, les vieilles familles, parce que il y a un article de Simon Langlois qui va paraître dans le prochain cahier des 10 qui s'appelle « La sociologie de la ville de Québec » qui est très intéressant là-dessus, où il montre que, d'abord, la ville de Québec, c'est pas stagnant comme population. Toute la population qui existait au 19e siècle jusqu'à 1870, beaucoup sont partis. J'en ai parlé tout à l'heure, que la bourgeoisie anglophone est partie. Et ça, c'est dommage, je pense, parce que ça maintenait une diversité que Québec a perdue par la suite. Et il n'est resté que la communauté irlandaise catholique. Il y a une ambiguïté dans la ville de Québec que j'ai remarqué moi-même au niveau historique, entre le loyalisme à l'égard de l'Empire britannique, qui est la carte qu'on joue pour favoriser Québec, et un nationalisme canadien-français qui va se développer à Québec. Si le néo-nationalisme a pu se développer à Montréal dans les années 60 comme rejet de l'ancien, il fallait qu'il y ait l'ancien qui se soit construit. Et il s'est construit, à mon sens, beaucoup plus à Québec, avec, depuis Garneau, toute l'historiographie, la littérature canadienne, le régionalisme, tout ce que vous voudrez, dans la peinture aussi. Mais on a construit une identité canadienne-française où Québec, ayant perdu le statut de capitale du Canada, s'est donné un nouveau rôle de capitale du Canada français à l'échelle continentale. Tous les congrès de la langue française depuis 1912, 1937, 1952, etc., ont voulu maintenir le leadership de Québec dans l'ensemble de la francophonie nord-américaine. Pour la période plus récente, question de conservatisme, c'est plus tellement la haute ville et la basse ville, mais peut-être la ville-centre et les banlieues. On l'a vu dans les élections municipales, les fusions ont été mal gérées à Québec. Il paraît que c'est aussi le cas à Montréal, mais dans le cas de Québec, ça a créé des clivages. Et la radio poubelle dont on parle tant, ce n'est pas non plus toute la ville de Québec, parce qu'il y a des gens à Québec qui ont honte, évidemment, de ce genre de radio-là, d'André Arthur et compagnie. Mais il n'est plus là, mais ça s'est beaucoup atténué. Mais il y a aussi le rôle de Radio-Canada, il y a le rôle d'une autre radio qui est beaucoup plus dans les normes acceptables de ce côté-là. Le conservatisme, encore une fois, il y a des nuances à faire. Il ne faudrait pas oublier non plus que Québec a joué un rôle au niveau de la Révolution tranquille avec la Faculté des sciences sociales du Père Lévesque. Alors, beaucoup d'idées de rénovation, de réforme, sont nés autour de l'École des sciences sociales de l'Université Laval, où sont sortis beaucoup de gens qui ont fait de la politique, soit au fédéral ou au Québec par la suite. Je vais m'arrêter là pour le moment. Je ne sais pas si Yvan a des réactions là-dessus.
Non, moi, je suis curieux d'entendre les personnes présentes. Alors, si tu permets, nous donnons la parole aux gens dans la salle. Vous pouvez vous approcher des micros, à moins que vous ayez une voix de baryton, mais vous pouvez vous approcher des micros pour poser des questions, faire des commentaires sur ce que vous pensez, vous, être la rivalité plus ou moins vive entre Québec et Montréal et comment vous l'expliquez si il y a une telle chose.
Je veux bien briser la glace. Monsieur Harvey y a fait allusion. Personnellement, je suis linguiste. C'est très particulier, mais j'aurais aimé vous entendre sur les origines historiques plus lointaines de cette polarisation-là, parce qu'on sait qu'au point de vue politique, c'était déjà le cas au moment des trois gouvernements de la Nouvelle-France. Et même des gens ont rattaché en partie cette espèce de polarisation à une différence d'origine démographique des habitants de la région de Québec et de la région de Montréal. J'aimerais que vous disiez des choses là-dessus.
Je ne suis pas un spécialiste d'histoire de la Nouvelle-France, mais il est certain que le peuplement des deux régions, des deux villes, est différent. Ce que je peux dire, ça me rappelle une étude qui a été publiée dans un collectif là, qui s'appelle... je pense que c'est la Nouvelle Culture Régionale ou la Région Culturelle, l'une des deux. Et il y a un linguiste qui a fait une étude pour partager la lexicologie entre la région de Québec et de Montréal et les mots là, qui sont utilisés différemment. Il y a une espèce de frontière qui passe entre Trois-Rivières et Québec, là, quelque part. Du village, mais en tout cas, c'est quelque part... Il y a une frontière linguistique, en tout cas, au niveau de la lexicographie. Alors, ça indique déjà une certaine différence qui s'expliquerait antérieurement par les migrations.
Moi, je peux dire que je connais mal l'histoire de la Nouvelle-France aussi, mais je sais bien que dans ma famille, mes parents venaient de Québec et de la région de Montmagny. Et nous qui avons vécu dans la région de Montréal depuis notre tendre enfance, nous notions chez nos parents des expressions et on se moquait gentiment, vous devinez bien, de mon père qui parlait des cerises, des églises. Des poteaux, et tout ça pour nous était un témoignage qu'il venait de la région de Québec, un peu comme on va reconnaître des Gaspésiens à l'accent ou des gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean aussi à l'accent. Mais je ne saurais dire... Je ne pense... Cela peut créer de menues différences culturelles sans vraiment... créer de rivalité, j'imagine. C'est juste?
Peut-être qu'autrefois, ces distinctions-là étaient plus marquées, mais que la télévision, les médias les ont un peu lessivées. Mais je ne sais pas, moi, les gens de Québec vont aussi remarquer que si quelqu'un vient de Montréal, il parle d'un taxi, alors ils vont s'en moquer, ou un poteau. Alors, il y a de part et d'autre ce genre de réaction.
J'aimerais que nos deux conférenciers réagissent à l'affirmation que je vais faire. Ce soir, on a parlé de la rivalité Montréal-Québec. Eh bien, moi, je dis que Montréal est assis entre trois chaises. C'est-à-dire qu'il y a la réalité démographique, politique, industrielle du Grand Montréal. Il y a la réalité du Québec régional, des régions du Québec, y compris la ville de Québec, et il y a la réalité canadienne avec Toronto comme capitale, enfin, jusqu'à aujourd'hui. Et Montréal se trouve partagé entre ces trois réalités. Historiquement, il y a eu des problèmes entre Montréal et Québec. Mais moi, je dirais que maintenant, et peut-être depuis même plus longtemps qu'il ne paraît, je dirais que le Montréal vit une situation très, très ambiguë dans le continent canadien où nous sommes. J'aimerais que vous réagissiez à ça.
Fernand m'invite comme Montréalais à réagir le premier. C'est un retour de politesse. Bon, je ne sais pas jusqu'à quel point cela éclaire la rivalité Montréal-Québec ou si elle ne l'évacue pas au profit d'une autre ou d'autres rivalités. C'est parce que si on commence à voir quels sont les axes qui dépolariseraient Montréal-Québec à partir de Montréal, on peut très bien penser à un axe Montréal-Toronto, tout comme on peut penser à un axe Montréal-Plattsburgh, New York-Hollywood. Cela me semble être le signe que Montréal me semble être le signe du poids économique de Montréal. Les axes dans lesquels se trouve placé Montréal, différemment de la ville de Québec, montrent bien qu'il y a une distorsion, un déséquilibre. En un sens, l'économie de la ville de Québec commence à peine depuis un quart de siècle à se diversifier un peu. Auparavant, c'était le secteur tertiaire de la fonction publique et ça a été pendant le début, dans la première moitié du 20e siècle, ça a été beaucoup l'industrie de la chaussure, en particulier le cuir. Mais là, Québec commence à se diversifier un peu au plan industriel et cela est à l'image de l'ensemble du Québec où la dynamique des PME vient commencer à contrebalancer le poids démesuré de Montréal dans l'économie du Québec. Donc, de ce point de vue-là, les entreprises, les PME qui sont en Beauce ou dans les bois francs et qui exportent aux États-Unis, au même titre que Bombardier exporte aux États-Unis et ailleurs, cela commence à créer une certaine diversification de l'économie qui contribue à dépolariser le seul rapport de Montréal et de Québec. Mais, à nouveau, jusqu'où est rendue cette diversification économique de la ville de Québec autre que le secteur tertiaire, malgré que l'économie du Québec est très fondamentale et majoritairement une économie de service, une économie du tertiaire, mais Québec, avec la fonction publique, avec le tourisme que génère la ville et la région de Québec, a une économie qui dépend des axes qui sont ceux de Montréal. Le tourisme américain, le tourisme anglo-canadien est aussi une réalité pour la ville de Québec.
Je vais réagir à mon tour. Je pense que ce que vous dites dans vos propos, c'est que Montréal a plusieurs chapeaux et est pris dans plusieurs réseaux. Et je pense que c'est un signe que nous sommes dans une période, on l'a dit souvent, de mondialisation, où il faut jouer ses cartes à plusieurs niveaux. Montréal était la métropole du Canada, elle n'est plus, mais elle est obligée d'établir des relations avec Toronto, de concurrence ou d'alliance dans certains cas. Elle est aussi, au niveau international, une ville qui se mesure à d'autres grandes métropoles. On a parlé de Barcelone, bon, de villes européennes ou autres. Et je pense que c'est normal que Montréal joue ces cartes-là. Elle est aussi la métropole du Québec. Et à ce niveau-là, elle a aussi à tenir compte de la réaction des régions, de Québec, pour éviter une chose qui m'apparaît dangereuse actuellement, là, cette espèce de clivage entre Montréal et le reste. On a notre rock aussi, semble-t-il. Et si ça devait se développer trop, là, il y aurait une scission dans la société qui ne serait pas saine du tout. Alors, que ce soit pour des raisons d'immigration, de diversité, de toutes sortes, ou d'options politiques, et il faut éviter que ce clivage-là là, aille trop loin. En ce qui concerne Québec, et c'est là aussi une réalité actuelle, c'est que les villes moyennes sont capables aujourd'hui de développer des relations internationales directes. Et Québec le fait très bien, et pas juste dans le domaine du tourisme. Québec, on le voit peut-être pas beaucoup à partir de Montréal, mais ce n'est plus, dans les études actuelles, ce n'est plus la fonction publique qui est le nouveau, l'employeur dynamique, parce qu'il n'y a plus d'emplois nouveaux dans la fonction publique. Les secteurs qui se sont développés, ce n'est pas uniquement le tourisme, les hôtels, c'est ce qu'on appelle toute l'économie du savoir. Autrement dit, les centres de recherche. Il y a beaucoup de centres de recherche qui se sont développés à Québec, l'Université Laval, l'INRS, mais aussi d'autres centres, les nouvelles technologies, l'électronique et tout ça. Il y a eu des mesures qui ont facilité ce genre de développement. Si vous allez dans le quartier Saint-Roch, qui est complètement changé par rapport à un quartier en décrépitude qu'il était là, il y a à peine 20 ans. Donc, une ville comme Québec aussi essaie de tirer son épingle du jeu au niveau international et de développer ses relations. Alors, on est dans des systèmes très complexes par rapport à ce que ça pouvait être au 19e siècle.
Est-ce que vous croyez que le clivage qui est en train de se produire, parce que moi, j'ai l'impression qu'on sent vraiment une rivalité Montréal-Québec, mais que c'est plutôt la rivalité région-Montréal, en tout cas que je perçois davantage au cours des dernières années, surtout avec les dernières élections où on parle beaucoup de la région contre la Montréal. Et pour siéger sur différents, même sur le terrain, on siège dans des associations nationales et on entend souvent ça, ce contexte de région contre la métropole. Et je sentais moins, en tout cas sur le terrain, cette rivalité Québec-Montréal. C'est sûr qu'on l'a vu par les médias ou par certains grands phénomènes. Mais je me demandais si vous sentiez ou vous percevez qu'il y a peut-être le clivage entre région et métropole est vraiment plus apparent depuis quelque temps qu'il y a quelques années.
Bon, moi, je pense que dans le cas de Montréal, ça joue beaucoup au développement démographique de Laval et de Longueuil et de la Rive-Sud en général. Ajouter à ça une dépopulation du centre-ville, ajouter à ça la confusion construite sur fusion-diffusion. Montréal est une chatte qui retrouve plus beaucoup, qui ne reconnaît pas ses chatons, tellement il y a de tensions, de distorsions. Ce qui fait que Montréal est assez fragilisé, et jusqu'à un certain point, c'est la région qui commence à dominer à cause des problèmes, des problèmes de l'île, si je puis dire. Donc, ça fragilise Montréal, et je dirais que là, les trois grandes villes sont obligées de faire une espèce de front commun implicite. Pour faire valoir leur point de vue. Mais il y a des phénomènes de centralisation. Le fait que certains partis politiques ont leur attache, leur port d'attache principal à Montréal, c'est un peu comme le jeu des médias. Hein? À partir du moment où l'exécutif d'un parti politique est à Montréal, la sensibilité dominante est celle de Montréal, les problèmes envahissants sont ceux de Montréal, la télévision est nécessairement celle de Montréal, parce que la télévision publique de Radio-Canada n'a pas le choix que de jouer le même jeu que la télévision privée et de vouloir centraliser, de fermer sa production pour l'essentiel en région, hein, et conséquemment, les gens de Matane sont enquiquinés à 6 heures par les problèmes de circulation sur le boulevard des Caries, hein, en gros. Alors, oui, je pense que c'est la région de Montréal qui sauve un peu la ville, qui sauve un peu l'île de ce temps-là. Mais toute cette reconversion donne une chance aux autres régions de se positionner et de devenir critiques à l'égard de ce montréalocentrisme qui est réel par la population, par l'économie et par la composition ethnique différente, par les problèmes linguistiques. Je pense qu'on réalise mal et on tire mal les conséquences de cette réalité très lourde, très massive. Hein. Au-delà du fait que dans les politiques d'immigration du Québec, il y a un certain nombre de points qui sont accordés à l'immigration en région, il n'y a pas beaucoup de secours un peu structurels qui viennent en faveur des régions et qui permettraient de démontréaliser la réalité québécoise. Hein. Mais personne n'en parle. Les gens à l'extérieur de Montréal ne vivent pas les problèmes des Montréalais. Et les Montréalais fonctionnent comme si le Québec, c'était eux. Et dans un sens, ils ont partiellement raison à cause de la réalité et du poids. Mais que faisons-nous de plus qu'un certain pointage dans les politiques d'immigration? Est-ce qu'il y a des incitatifs, je dis bien des incitatifs non coercitifs, qui permettrait de démontréaliser et l'économie et le phénomène migratoire?
Peut-être si je peux ajouter sur la question des régions sur laquelle j'ai un peu réfléchi. J'ai essayé personnellement de développer une typologie des régions du Québec qui a été réutilisé au ministère de la Culture pour des analyses statistiques, entre deux pôles, Québec, Montréal, qui seraient les deux villes principales. Et il y aurait, parce que quand on parle de région, de quoi on parle? De choses très différentes. Il y a ce que j'appelle, autour de ces deux régions centrales, parce que Québec et Montréal sont aussi des régions avec une extension plus ou moins grande selon la perspective qu'on a. Mais il y a les régions, ce que j'appelle péri-métropolitaines, donc la Montérégie, Laurentides, la Naudière, et à Québec, Beauce-Appalaches, qui gravitent autour de Québec. Et vous avez après ça les régions intermédiaires, Trois-Rivières, la Mauricie, les cantons de l'Est, l'Outaouais, qui sont pris entre deux pôles, que ce soit Ottawa, Québec ou Montréal, et après ça, les régions périphériques. Alors, quand on parle des régions, on entend, au fond, c'est souvent les régions périphériques qui parlent le plus, mais les autres régions sont dans des situations différentes. Quand on est dans la couronne de Montréal, j'imagine que ce n'est pas la même problématique qu'à Rimouski ou à Chicoutimi. Et les régions en ont... critique souvent, non seulement Montréal, mais souvent Québec aussi, parce que Québec est parfois considéré comme, au niveau politique, un endroit de centralisation des décisions. Donc, vous voyez, c'est un jeu assez complexe. Montréal, Québec, les régions, et quelles régions on parle. Et la question des migrations me semble effectivement un point très sensible actuellement. J'avais rencontré dernièrement des responsables de la commission des écoles catholiques c'est plus ça qu'il faut dire maintenant, mais bon, en tout cas, la commission scolaire de Montréal, pour ces questions d'intégration des immigrants. Et on avait constaté que les immigrants connaissent à peu près pas le Québec, voyagent pas en dehors de Montréal, connaissent pas les régions. les Montréalais, eux, le font, au moins en vacances. Et ça, je pense qu'il faudrait, au-delà des politiques aussi, pour placer des gens dans les différentes régions, faire en sorte que ceux qui vivent à Montréal puissent connaître le reste du Québec pour éviter les clivages là, qui semblent actuellement se dessiner là, dans les débats publics.
Je comprends tout ce que vous dites par rapport à ce débat-là, mais j'aimerais ramener ça un peu plus vers le concret. Je suis originaire d'une région périphérique, comme vous dites. Je reste à Montréal, ça fait longtemps. Ma famille en région, je ne vois pas concrètement comment ce débat-là affecte personnellement les gens. Je comprends les conséquences économiques. Mais comment on sort de la surface, c'est-à-dire que vous avez commencé votre exposé en disant « Ah, les gens de Québec disent que les gens de Montréal sont comme ça, les gens de Montréal disent que les gens de Québec sont conservateurs », mais outre des mots de surface que la radio poubelle de Québec va dire par rapport à Montréal, comment dans la vie de tous les jours ça se traduit? Parce que moi, je le vois pas, ça. Comment ça peut se traduire? Puis peut-être la deuxième partie de ma question, ce serait en quoi ce qui arrive entre Québec et Montréal, ou si on élargit entre Québec et les régions, en quoi ce débat-là est particulier plus à ce que Edmonton va vivre par rapport à Calgary, et ce que probablement toutes les grandes villes du monde vivent, parce qu'il y a une grande ville, puis il y a des petites villes, j'imagine que ça se produit un peu partout, alors en quoi notre problème est différent, particulier, puis concrètement, là, est-ce qu'on voit des actes concrets se passer, là, parce que j'ai pas l'impression, est-ce qu'il y a vraiment de mauvaise foi, est-ce qu'on voit, en tout cas ma question est longue, je vous laisse répondre.
Je vais peut-être répondre, puis Yvan continuera. Yvan a mentionné le fait qu'il y a beaucoup de propos de surface là-dedans, véhiculés par les médias, amplifiés par les médias, et je suis d'accord que ça tombe souvent dans l'anecdotique et le stéréotype, et ça, personnellement, ça ne m'intéresse pas tellement. Ce qui me préoccupe plus, par contre, c'est vrai que peut-être que dans la vie quotidienne, ça ne change pas grand-chose à ce que vous vivez de part et d'autre, et ce qu'on peut vivre ailleurs au Québec. Là où ça se vérifie, par contre, c'est au niveau parfois des organismes ou de la décision politique sur telle question. Également, je dirais, d'une façon plus globale, au niveau d'identité. Il me semble que la nouvelle identité québécoise qui semble se chercher actuellement doit se préoccuper de ces tensions-là. Je pense qu'on ne reviendra pas à une espèce d'unanimisme qui a peut-être d'ailleurs jamais existé du Canada français. Mais il faut, à ce niveau-là de l'identité, donc ce n'est pas un niveau de la vie quotidienne peut-être, mais au niveau du projet de société dans lequel on est ou qu'on veut développer, se préoccuper de tous les aspects du Québec d'aujourd'hui. Voilà.
Moi, j'essaierais de plaider en faveur du fait que... appelons pas ça rivalité, si vous voulez, mais c'est les tensions entre Montréal, d'une part, Québec, d'autre part, et la province ou les régions. Bon, moi, je pense qu'il y a là une réalité très forte qui a des impacts au quotidien. Je passe rapidement sur l'évidence des problèmes économiques de la Gaspésie par rapport, mettons, à ceux de Montréal. Ça se vit au quotidien. Le taux de chômage en région puis à Montréal, c'est différent dans la vie quotidienne des citoyens. Mais je dirais qu'au niveau ce déséquilibre, que j'exagère peut-être, mais j'ai les chiffres pour moi, le déséquilibre économique et démographique fait que dans des réalités où se jouent des valeurs, prenons l'exemple de l'école, hein, les problèmes que les Montréalais rencontrent à propos du cosmopolitisme, à propos des signes religieux, on en entend beaucoup parler, il me semble que c'est un problème, ça, qui se vit au quotidien. Hein? Parce que comment la commission Bouchard-Taylor pourra-t-elle dire quoi que ce soit d'un tant soit peu fondé sur la représentativité de ce qui s'est dit devant la commission et de ce que les deux commissaires vont dire? Ce que je veux dire par là, c'est que quand on est à Grand-Mère ou à Mégantic et qu'on est à Montréal et qu'on pose le problème de savoir si on veut une école laïque au Québec, moi, je pense que, à tort ou à raison, mais je pense que se vit à Montréal depuis plus longtemps et de façon beaucoup plus intensive, ce problème de la laïcité de l'école, hein? Et conséquemment, dans la vie quotidienne, le fait que Montréal soit ce qu'elle est, comme ville ou comme région, avec la démesure démographique, entre autres, et la particularité de la composition ethnique, cela fait que il est très difficile de savoir où est le Québec moyen. Et ça, les gens le vivent au quotidien. C'est un peu comme la Révolution tranquille. On a pensé qu'avec la Révolution tranquille, le Québec s'était laïcisé. S'il y a une méprise, c'est bien celle-là. Au sens où on a mis 30 ans à changer le régime des commissions scolaires. Si vraiment la Révolution tranquille avait été une révolution laïcisante du système scolaire, on n'aurait pas attendu 1997 pour changer la commission des écoles catholiques de Montréal en commission des écoles francophones et anglophones de Montréal. Vous voyez, au niveau des valeurs, l'expérience de la grande région de Montréal n'est pas meilleure. Ça n'en fait pas des gens qui peuvent se faire péter les bretelles, comme on dit, mais c'est une expérience historique différente. Et c'est ça qu'on ne nomme pas beaucoup, que la commission Bouchard-Taylor a fait effleurer, affluer. Mais ça induit un rapport aux valeurs différents. Et il me semble qu'à Mégantic, pas Grand-Mère, le problème, il me semble que là, il est concevable que des parents n'est pas le même coefficient de volonté d'avoir des écoles laïques où il n'y a pas de signes religieux. Vous voyez? Et ça, me semble que ça se joue au quotidien, ça, dans l'école. Est-ce que j'ai bien compris votre question? Moi, je pense qu'il y en a des différences. Je pense que une différence fondamentale, c'est l'approche multiculturelle au Canada et l'approche que je vais appeler pluriculturelle au Québec. C'est pas le rapport à l'immigration n'est pas le même au Canada de langue anglaise qu'au Québec. Hein? Et je pense que qu'au Canada, on pense que le multiculturalisme donne et donnera une belle jambe à l'image du Canada au plan international, mais je pense qu'un jour ou l'autre, le Canada va être confronté à la question de dire que faisons-nous pour qu'il y ait une intégration minimale des immigrants à une culture canadienne qu'on ne veut pas trop affirmer parce qu'on va se mettre à faire du nationalisme comme on fait au Québec. Mais il y a un problème là qui couvre. Hein? Alors que le Québec n'a pas le choix que de penser son rapport aux immigrants, son accueil aux immigrants, dans une dynamique d'intégration où on doit formuler les règles du jeu les plus respectueuses des droits de l'homme et de la démocratie. Ce travail-là se fait, il se fait publiquement devant une commission, dont on peut discuter de l'existence, mais c'est une autre paire de manches. Alors, il me semble que c'est différent, là. Le rapport politique à la question des flux migratoires, ça se joue au quotidien, à moyen et à long terme. Il y a des valeurs d'engager là-dedans. Il y a des façons d'aborder les questions qui sont différentes, qui ne sont pas meilleures, mais tout le monde est confronté au problème.
Moi, je suis assez d'accord avec les propos d'Yvan. Ce qui est semblable, c'est quand on remarque qu'au Canada anglais, les grandes villes d'immigration, c'est Toronto, Vancouver et pour le Québec, Montréal. Essentiellement, la très grande majorité des immigrants se dirigent vers ces trois villes-là et le reste doit vivre un peu cette dichotomie qu'on a au Québec, sauf qu'il ne le pose pas de la même façon, parce que le facteur linguistique, notamment, n'est pas en cause. Il y a une espèce d'angloconformité linguistique là, qui s'impose d'elle-même à long terme. Mais la question de l'identité, effectivement, est comme un problème à retardement qui va sûrement se poser un jour à Toronto, notamment. La question nationale est toujours sous-jacente à toute la problématique et des régions et de l'intégration des immigrants.
Bonsoir. Moi, j'aimerais revenir sur le titre de votre présentation, « La rivalité politique et culturelle entre Québec et Montréal ». Ce que j'entends depuis tout à l'heure, il semble bien que c'est plus Québec municipal et Montréal municipal, mais plutôt Québec régional ou métropolitain, en tout cas moins, et Montréal, la même chose. Ce que je voudrais savoir aussi, c'est politique et culturel. Est-ce que c'est un couple qui est indissociable? Et la signification du mot rivalité. Surtout, je vois, quand on parle de rivalité, est-ce que c'est compétition? Est-ce que c'est lutte? Est-ce que c'est se détester? Qu'est-ce que signifie... Pardon, pour vous, rivalité dans une phrase comme celle-là. Merci.
D'abord, je fais la distinction entre ce qui m'apparaissait être rivalité, pour moi, ça veut d'abord, avant tout, dire la perception de part et d'autre de différences qui sont plus ou moins... actualisé, plus ou moins accentué selon les moments. Mais le mot « rivalité » a une connotation, je dirais, polémique, médiatique, où on joue sur les clichés, les préjugés. Donc, il y a une rivalité de cet ordre. Mais il y a aussi une rivalité qu'on va appeler concurrence, où là, il y a des enjeux soit économiques ou politiques. Le Parti canadien n'a jamais réussi à percer à Québec comme il a percé à Montréal. Un certain nombre d'idées n'ont pas percé de la même façon dans les deux endroits. Encore aujourd'hui... Il y a une concurrence politique. Jusqu'à quel point elle est profonde, je ne saurais dire, mais j'entends assez fréquemment autour de moi des cadres de ministères qui se demandent bien comment il se fait qu'ils doivent passer deux jours à Québec alors que toutes les questions internationales se brasse au Centre international à Montréal. Là, il y a une concurrence et il y a un enjeu. Je pense que l'histoire de cet organisme qui s'appelle la capitale nationale à Québec?
La commission de la capitale nationale.
La commission de la capitale. Il y aurait une histoire à faire de la commission de la capitale nationale à Québec, hein, comme ayant été un instrument délibéré de consolider la centralisation de l'administration publique québécoise à Québec dans des moments où le risque devenait de plus en plus grand que, non pas que ça se déplace en totalité vers Montréal, mais qu'il y ait une dérive un peu plus accentuée. Alors, il y a une rivalité médiatique, de clichés qu'on sort à l'occasion, mais il y a des perceptions différentes de ce que sont les valeurs dans chacun des lieux ou des régions, et il y a une concurrence, je pense, politique, administrative peut-être aussi, peut-être plus que politique. C'est le sens que je donnerais, moi, à rivalité. Parce que, effectivement, si on cherche des situations nombreuses où les deux villes se seraient symboliquement crêpées le chignon de façon significative, la rivalité, Michel Bergeron, M. Demers, nordique, canadien, ça, il fallait que ça soit attisé constamment pour avoir une réalité. Alors donc, la rivalité, elle est beaucoup plus latente, construite sur des perceptions différentes et des concurrences, mais la rivalité, elle s'est jouée. C'est jouée l'affaire. Hein? Qui est le rival de qui, là? Hein? Je voulais commencer par ça ce soir. Qui c'est qui commence, là? Il y en a-t-il un qui est en rivalité avec l'autre? Est-ce qu'il y a une ville qui est en... Est-ce que Québec est plus en rivalité avec Montréal que Montréal avec Québec? Le préjugé voudrait qu'à Montréal, on dise, ben, dites-nous, là, où il y a de la rivalité, parce que nous, on est dans une position où on ne peut pas la sentir, cette rivalité. On ne peut pas la percevoir. Alors, vous voyez, là, ça, c'est le genre de d'énoncé qui peut attiser les choses. Mais le feu est un feu de paille. Mais c'est pour ça que j'ai voulu, moi, qu'on s'attarde à ce qui me semblait des choses assez structurelles qui peuvent prendre des intensités à des moments différents.
Je dirais à peu près la même chose, que s'il y a rivalité, les gens ne se couchent pas le soir en maudissant la ville adverse, surtout Québec par rapport à Montréal. C'est latent. Et ça va sortir à l'occasion de dossiers spécifiques, je ne sais pas moi, des événements culturels concurrents. Ça, c'est souvent un cas assez litigieux. Si Montréal fait une fête des neiges alors qu'il y a le carnaval de Québec, ou si le Salon du livre se tient à la même date, il y a eu des polémiques là-dessus. Là, tout à fait, tout à coup, l'agressivité sort. Mais c'est dans des cas souvent de type des événements ou des décisions administratives. Pour le reste, pourquoi politique et culturelle? D'abord, je ne pense pas qu'au niveau économique, on puisse parler de rivalité. Et c'est souvent... Le pouvoir est un élément très important dans une société parce que ça amène à faire des choix. Donc, celui qui fait des choix peut avoir une implication pour une ou l'autre des deux villes. Et culturelle, évidemment, c'est toute la question de l'identité, mais aussi de la créativité. À Québec, depuis les années 80, il s'est passé beaucoup de choses en termes de dynamisme culturel. Ce n'est plus la ville endormie des années 50 ou même 60. Mais dans le théâtre, que ce soit les arts visuels et aussi la musique, il y a beaucoup de choses qui se font, mais souvent, les gens de Québec ont la perception que ceux de Montréal ne savent pas ce qui se passe. Bon, c'est peut-être normal. Le plus petit voit plus ces choses-là que le plus gros. Mais tout ça pour dire que, bon, c'est dans l'ordre des choses, mais ce n'est pas une question dramatique dans ce sens-là.
C'est le, à propos du culturel, c'est le jeu des densités encore de la population qui me semble jouer. Prenons le cas de Robert Lepage à Québec. Hein, Robert Lepage, contre vent et marée, essaie de garder une identification à la ville de Québec. Il est la preuve vivante que la création culturelle, qui n'a pas à voir avec la télévision ou la radio, là, ou la presse, que la création culturelle théâtrale est possible à Québec. Mais, bon, et Lepage est exportable, il est exporté. Il est passé par-dessus Montréal. Hein? Il est allé à l'étranger en même temps ou avant de venir à Montréal. Mais, à nouveau, c'est ça le problème. Ça tient aux structures. Les médias de masse sont centralisateurs par définition et les choses ne sont possibles que quand il y a un bassin économique possible pour maintenir un club de hockey ou pour maintenir un journal, etc. Mais la création culturelle, c'est difficile même de savoir ce que ça veut encore dire. Un théâtre, par exemple, ou une vie musicale autour de l'Orchestre symphonique à Québec, ou autour du théâtre. Quand on sort le Québec encore, et qu'on, il va arriver le théâtre, le fameux théâtre là, au Bic, le théâtre...
Quand du Bic, non?
Il y a un truc, là, pas les belles soirées, le théâtre des belles veillées. Enfin, bref, ils ont créé un répertoire là, qu'ils ont amené à Montréal et la troupe a eu succès sur succès. Mais ça, c'est comme des exceptions, on dirait. Il n'y a pas eu d'indignation, vraiment.
Moi, je voulais revenir sur une rivalité qu'on n'a pas beaucoup abordée, mais la rivalité sociale. Je vais vous donner un exemple. Moi, je travaille pour un organisme, l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes, qui existait pendant 60 ans, Montréal et quelques personnes de Québec. Puis là, on a eu une chance de faire une campagne. Puis on s'est dit non, il faut repartir ça d'une autre façon. Ça fait qu'on a parti 17 comités dans 17 régions. Là, c'est sûr, quand on est arrivé là, on s'est fait recevoir en disant « Ah, c'est à peu près temps que vous sortiez de votre trou. » Oui, oui, d'accord. Puis là, j'espère que vous ne nous imposerez pas X, Y, Z. Bien, on va partir de... Fait que dans le fond, on a réussi parce qu'on est allé au-devant d'eux, on les a consultés, aussi parce qu'on a donné des budgets égaux aux 17 comités locaux. Sauf qu'après un certain temps, Montréal dit, bien, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Nous autres, pour faire la même chose que vous autres en région, nous autres, on a deux fois plus d'immigrants. Tout ce que vous disiez, l'économie, puis... Il y a une concentration à Montréal. Alors, on est pris avec ce problème-là de savoir... Parce que dans le fond, le travail a été facilité du fait qu'on a dit qu'il n'y a pas une région au départ, là, quand on a commencé il y a 5 ans. Toutes les régions étaient égales. Mais maintenant, cette égalité-là est un peu trompeuse parce qu'on est faible à Montréal. Puis la semaine dernière, j'étais à une rencontre sur les régions là, avec le mouvement paysan puis Solidarité rurale. Puis eux autres aussi arrivaient aux mêmes questions. Dans le fond, comment faire en sorte donc d'éviter la rivalité sociale qui existe entre chaque région, entre chaque région et Québec à une certaine mesure, vis-à-vis Montréal dans une autre mesure. Mais comment arriver à avoir... une articulation qui ne défavorise pas Montréal et, en défavorisant pas Montréal, qui a un effet d'entraînement sur toutes les 17 autres régions. Nous, on est un peu pris là-dedans. Puis quand on parle, par exemple, à des gens de la CSN, ils disent, ben oui, nous autres aussi, on est pognés là-dedans à CSN. Parce que la CSN décrète des affaires, mais mettons le Conseil confédéral, qui est souvent à Québec, il décrète des affaires. qui vont se réaliser à Montréal, mais ne consultent pas à région. Bon, c'est pas toujours comme ça, là, je ne veux pas donner l'image de la CSN, moi, je suis membre de la CSN aussi. Mais en tout cas, tout ça pour dire que il est possible de lutter contre des fausses rivalités, mais en même temps, il faut trouver des façons d'articuler les forces et les forces relatives de chaque région.
Oui.
Ce problème social, c'est... À Montréal, on a difficilement idée de ce qu'est la solidarité communautaire. On a beau être dans des organismes de quartier, bon, excluons l'école, là, les comités d'école, qui sont importants, j'en conviens, mais quelqu'un qui se retrouve en Gaspésie, à Lens au Griffon, et qui... quelqu'un de Montréal qui arrive là, parce que j'ai un exemple à l'esprit, quelqu'un s'est impliqué dans le petit centre culturel de Lens au Griffon, et les gens font beaucoup avec peu au plan culturel. Alors, les formes de solidarité régionale ou sous-régionale, on a difficilement des équivalents de ça à Montréal, et conséquemment, on voit mal de Montréal la richesse de ces solidarités.
Oui. Je donnerai l'exemple, puisqu'on parle un peu de structure et tout ça, des conseils régionaux de la culture. Que je connais un peu, il en existe dans toutes les régions du Québec, sauf à Montréal. Je pense que peut-être que dernièrement, il y en a un ou l'équivalent. Mais ça montre qu'il y a une problématique complètement différente qui existe à Montréal, où on ne peut pas faire les choses comme dans les régions. En région, j'ai inclus Québec là-dedans pour une bonne part, il faut être polyvalent quand on travaille dans quelques secteurs, ce soit parce que les gens ne sont pas nombreux. Donc, si quelqu'un est dans la culture, mettons dans le théâtre, il doit faire toutes sortes de choses qui, à Montréal, seraient divisées en silos par spécialité. Alors, la division du travail, pour utiliser le mot de Durkheim, est beaucoup plus poussée à Montréal qu'elle peut l'être dans les régions. Donc, il y a ce réflexe et aussi cette situation qui est différente. Ce qu'il faut peut-être arriver, c'est une pondération entre la réalité géographique et la réalité démographique. Et je pense qu'on ne peut pas non plus pénaliser Montréal si on lui enlève des ressources. Mais il faut que de part et d'autre, on comprenne les contraintes qu'on a. Mais il faut les connaître, ces contraintes-là. Et souvent, on a tendance à penser que tout est du même niveau. Et c'est dans ce sens-là que les questions de rivalité là, peuvent rejoindre la vie quotidienne, notamment au niveau du travail. Ce n'est pas juste des idées lancées à la radio.
Parce que des gens qui ont déjà expérimenter une rivalité Québec-Montréal qu'on aurait sous-estimée. Aussi.
Vous avez parlé que Québec est plutôt conservateur, donc Montréal est plutôt libéral. Et libéral dans quel sens?
Moi, je pense que Montréal. Montréal a été obligé de part et d'autre des populations anglophones et francophones d'abord, à faire l'épreuve plus constante et pendant plus longtemps appelons ça de tolérance. Je ne dis pas que les gens de Québec ne sont pas tolérants, la question n'est pas là, là. Mais Montréal de ce point de vue-là, l'Institut canadien de Montréal, les journaux comme L'Avenir et Le Pays sont de bons exemples d'un combat qui est mené pour un certain nombre d'idées qui ont été des combats qui ont été possibles à Montréal et qui l'ont pas beaucoup été possibles à Québec. Ça a été possible à Saint-Hyacinthe, par exemple. Il y a d'autres lieux où ce libéralisme, disons, idéologique, je ne l'entends pas au sens du Parti libéral, là. Je pense que Montréal, à cause de son histoire, à cause de sa dynamique économique et ethnique, probablement de ses rapports aussi avec les États-Unis plus intensifs, Montréal a eu à explorer et à expérimenter la différence de façon beaucoup plus intensive et continue. Et c'est ce qui fait que ce cosmopolitisme plus évident à Montréal ne fait pas des Montréalais des gens meilleurs en ceci ou en cela. C'est des gens qui ont une expérience historique différente. Et les gens de Québec, quand la ville a été aussi très fortement francophone et anglophone, Québec a développé des institutions anglophones et francophones, mais cela a décliné et Montréal, elle, a continué à explorer cela. Bon, il y a aussi, comment expliquer, par exemple, que les idées du Parti patriote aient fait davantage mouche dans la région de Montréal que dans la région de Québec ou ailleurs. Il y a là, c'était la présence du Parti patriote actif, les journaux patriotes comme la Minerve, et il y a eu des débats à l'intérieur même, d'ailleurs, du Parti patriote qui font que il y a un certain nombre d'idées qui se sont exprimées, qui se sont développées, qui sont restées dans le paysage, ce qui n'exclut pas qu'à d'autres moments, à Québec, il y a eu aussi des percées. Mais c'est l'expérience. Quand je vous parlais, pour moi, de faire commencer la rivalité, la concurrence politique, idéologique entre Québec et Montréal avec Papineau, pour moi, ça montre bien qu'il y a deux matrices qui se sont constituées progressivement et qui perdurent d'une façon ou d'une autre et qui ont été entretenues au fil du temps.
Je me demande aussi, en écoutant Yvan, si on ne pourrait pas avancer l'hypothèse que les débats idéologiques ont été plus marqués à Montréal qu'à Québec. Ça, je pense qu'on serait assez d'accord là-dessus. Mais qu'à Québec, au fond, au-delà du conservatisme, il y a une espèce de pragmatisme dans la population qui se traduit au niveau souvent électoral. Les Québécois de Québec étant plus près du pouvoir, connaissant les rouages de plus près, constituent un électorat plus volatile aussi. On l'a vu. Québec a été, lors des dernières élections fédérales, la première région à passer chez les conservateurs, et ça s'est répandu par la suite dans d'autres régions du Québec. Et ça peut changer encore dans les années à venir, puisque le Parti québécois, au niveau québécois, avait fait des grandes percées à une certaine époque, ce n'est plus le cas. Alors, il y a une espèce de pragmatisme dans la population de Québec qui me semble assez caractéristique.
Il y a un prix
opportuniste, peut-être.
Oui, il y a un prix à payer autant pour le radicalisme que pour le pragmatisme. Et je dirais que c'est ça, il y a un prix à payer pour les deux approches. Oui. Bon, alors, est-ce que nous avons épuisé les sujets parlants et non pas le sujet même de notre rencontre? Est-ce que quelqu'un voudrait donner le mot de la fin ou la question de la fin ou un commentaire?
Merci aussi pour la vôtre.